Le vingt-six septembre 1964.
Je ne sais pas si ça t'intéressera. Un problème que l'on me pose.
Ah,
un problème d'ordre spirituel.
Oh, qui te pose?
Mon frère.
Hein?
Mon frère.
Oh, ça, bon.
Ça t'intéresserait?
Oui, moi ça m'intéresse. Ton frère, j'ai beaucoup pensé, c'est un bien. Beaucoup. C'est-à-dire, ça veut dire, pour dire la chose exactement, qu'il a certainement pensé à moi. À moi, enfin, pas à moi comme ça. Il m'en pense. Dis.
Il est médecin, tu sais.
Hein?
Il est médecin.
Oui.
Alors voilà.
Pas.
Comment?
Ça ne m'étonne
pas. Non. Il y a aussi une chose épuisante dans ce métier, c'est le mensonge. Quand il faut, jour après jour, accompagner jusqu'à la mort un être qui a peur de la mort et vient boire au creux de votre main le mensonge sans cesse fignolé. Les médecins disent que c'est la grandeur du métier. Je ne trouve pas. Je suis un sacré bon menteur, pourtant. C'est pour cela qu'on m'aime. Mais je ne peux plus supporter cette imposture, soi-disant charitable, qui est le mépris de soi-même et de l'autre. Et qui m'a donné le droit de décider que celui-ci ou celle-là n'a pas droit à la vérité, à sa dernière vérité. Laissons cela. Les religions ni la science ne m'ont donné de réponse à cette question.
Évidemment, il n'y aurait qu'une solution. Ce n'est de perdre la conscience mentale qui vous donne la perception ou la sensation que vous dites un mensonge ou une chose vraie. Et on ne peut obtenir ça que quand on passe dans l'état supérieur où notre notion de mensonge et de vérité disparaît parce que quand nous parlons avec la conscience mentale ordinaire, même quand nous sommes convaincus que nous disons la complète vérité, nous ne le faisons pas. Et même quand nous pensons que nous disons un mensonge, quelquefois ça n'en est pas un. Nous n'avons pas la capacité de discernement entre ce qui est vrai et pas vrai. Parce que nous vivons dans une conscience mensongère. Et il y a un état dans lequel, d'abord, on ne prend plus de décision personnelle. Ensuite, on est comme un miroir qui reflète l'exact besoin véritable, c'est-à-dire spirituel, du malade, mettons, Et l'exacte chose qu'il doit savoir pour que sa vie, le reste de sa vie, ce qu'il lui reste de vie, lui apporte le maximum de possibilités de progrès. Et quand on perçoit ça, on voit aussi que la façon humaine, la façon du docteur humain de voir la maladie n'est pas conforme à la vision supérieure de ce même état, de l'état du corps. Et que il y a dans chaque cas, pas d'une façon générale pour tous les cas, dans chaque cas, il y a une chose à dire qui est la vraie chose, même si par exemple c'est d'apporter au malade le sens d'une durée de vie. On pourrait déplacer sa conscience et placer sa conscience dans la partie de l'être du malade qui veut. C'est difficile à expliquer, mais ça, c'est une chose que je dis par expérience, parce que ce problème-là, je l'ai rencontré très souvent. Juste maintenant, ici, il y a une personne qui a eu plusieurs cancers, qui a été opérée, et à cause des opérations et des traitements, on l'a fait durer des années. Et seulement, on lui dit les mensonges d'habitude. Et, n'est-ce pas, elle me demande à moi, pas personnellement, parce qu'elle ne me parle pas, mais et je la vois même pas, mais elle me fait demander ce que moi je vois et ce que moi je sais. Et alors j'ai eu l'occasion de voir quelle était la réponse à donner. C'est pour ainsi dire comme le moyen pratique d'obliger le docteur à entrer dans une conscience supérieure. Ça doit être cette crise-là qui lui est venue, qui est arrivée au moment où il y a une obligation, on dit, impérative, une obligation de métier, d'entrer dans une conscience supérieure. Parce que, dans l'état où il est, il doit mentir très mal. Enfin, il dit qu'il est très bon menteur, mais cette perception qu'il a doit faire que, en même temps que son mensonge, le doute doit entrer dans la conscience du malade. Et alors, il ne fait pas ce que est considéré comme une chose utile. À mon avis, au point de vue pratique et extérieur, j'ai vu plus souvent le cas où le mensonge avait un mauvais effet que le cas où la vérité avait un mauvais effet. Mais tout dépend de la conscience. Et je sais, alors ça d'une façon certaine, que si on peut être dans cette conscience de jouer, l'état, cet état de maladie, était certainement une nécessité et souvent une nécessité voulue. C'est-à-dire non seulement accepté et subi, mais voulu de l'âme pour avancer plus vite sur le chemin, pour gagner du temps, gagner des vies. Et si on peut, si on a le pouvoir de mettre cette âme en rapport avec la force qui dirige son existence et qui l'amène vers le progrès, vers la réalisation, on fait une œuvre de qualité tout à fait supérieure. Tu sais ça, que les mêmes mots, les mêmes phrases dites par quelqu'un qui voit et sait, et dites par l'ignorant ordinaire, changent complètement de nature et de pouvoir et d'action. Il y a une façon de dire qui est la façon vraie, quels que soient les mots que l'on dit. Et c'est ça la solution. C'est au-dedans de lui-même, dans les profondeurs de son être, qu'il doit trouver cette lumière-là, la lumière qui sait ce qui doit être dit et comment ça doit être dit. Et alors, ce sens de responsabilité, de complicité avec le grand sens, c'est fini, ça disparaît complètement. Et il dit nécessairement, forcément, absolument, la chose qu'il faut. Et comme il faut, de la manière. C'est une belle réalisation à faire. On peut faire une belle œuvre comme ça. C'est intéressant comme problème. C'est intéressant. Pouvoir sentir, voir la chose à dire. Et c'est ça qu'il faut dire. Pas avec la pensée, cet homme va mourir et il faut qu'il ne soit pas trop malheureux et on doit le... Tout à fait inutile. Et on se met soi-même dans une sorte de bouillie mentale, et ça n'aide pas vraiment, ça ne fait pas les choses en croix. Tandis que cette vision intérieure de... Pourquoi cet être est malade? Que ce désordre physique exprime dans la destinée de l'âme de cet homme, c'est magnifique. Et au fond, il est aussi inutile de dire « vous allez guérir » que de dire « vous ne guérirez pas ». Les deux sont également inexacts, au point connu de la vérité vraie et pas satisfaisant pour quelqu'un qui a déjà un commencement de contact avec une autre vie que la vie finie. Oui, mais même quand le malade vous dit comme ça, je guérirai, n'est-ce pas? Ou quand il dit, n'est-ce pas qu'il pose la question, même matériellement, n'est-ce pas? Il y a une façon de répondre qui n'est ni oui ni non, mais qui est vraie. Et qui a un pouvoir d'ouverture intérieure. Je suis, figure-toi, depuis longtemps, à la recherche d'un docteur, c'est-à-dire d'un homme qui ait la connaissance médicale complète, sache tout ce que l'on sait maintenant sur le corps humain et la façon de le soigner. Et qui puisse avoir le contact avec la conscience supérieure. Parce que, à travers un instrument comme ça, on pourrait faire des choses très, très intéressantes, très intéressantes. Ce domaine où il n'y a plus ni maladie, ni guérison, mais désordre, confusion, harmonie et organisation. Il y a un domaine où tout ce qui se passe dans le corps, surtout, n'est-ce pas, tout, forcément, d'abord tout ce qui concerne le fonctionnement, mais du fonctionnement à l'organe lui-même, n'est-ce pas? Le désordre de l'organe lui-même. Jusque-là, c'est... Il y a toute une façon de voir qui vous mène très près de la vérité. Il n'y a plus que les maladies qui viennent du dehors, comme les maladies contagieuses, n'est-ce pas, par tous les germes, les microbes, les bactéries, les virus, et tout ça. Ça reste encore sous l'aspect d'attaque de force de l'adversaire. Ça, c'est un autre plan d'action. Mais il y a un point où ça se joint. J'aimerais beaucoup parler de certaines choses, de certains détails de fonctionnement du corps, et d'organisation. Avec un homme qui saurait à fond l'anatomie et non seulement la biologie, la chimie physique, corporelle, toutes les choses à fond, à fond, à fond. Et qui comprenne, qui soit prêt pour comprendre que tout ça, c'est une projection de forces plus subtiles, qui puissent sentir comme je sens moi dans mon corps. C'est très, très intéressant. Et ça c'est le premier pas. N'est-ce pas, il met le problème ici. C'est-à-dire au point de vue purement mental, hier, ce que l'on est convenu d'appeler la vérité, qui n'est pas vrai, et dire ce qui est convenu d'appeler un mensonge, qui n'est peut-être pas du tout ce que l'on croit, qui n'est pas un mensonge, qui est simplement la contradiction, l'opposé de ce que l'on considère comme la vérité. Mais pour trouver la solution, il faut monter là-haut. Où on voit, où on peut voir d'une façon tout à fait concrète que cette vérité n'est pas absolue, que ce mensonge n'est pas absolu, et qu'il y a quelque chose d'autre, une manière d'autre, une autre manière de voir, où les choses ne sont plus comme ça. Et alors dire la vraie chose, le mot, juste le mot, la phrase, avoir la pensée qui est la vraie pensée, dans chaque cas, quel pouvoir merveilleux on aurait sur son malade. Magnifique. N'est-ce pas, savoir toute la chose matérielle, cellulaire, avec toute la connaissance de tous les détails. Ça, c'est très intéressant. Et en même temps, avoir cette vision. Si on mettait ces deux choses ensemble, on serait un docteur divin. Ce serait merveilleux. Sortir du problème moral pour en faire un problème spirituel. Et ce n'est plus un problème. Voilà. Mais je pense souvent à ton père. Et ça a dû être, quand est-ce que tu as reçu cette lettre?
Il y a déjà quelque temps. Il y a presque un mois. Hein? Il y a presque un mois, j'ai reçu. Ouais.
Non, c'est pas, il n'y a pas longtemps, c'est dû au dernier encore. Peut-être qu'il a encore écrit une fois. tu demanderas à ton frère si il a eu différents cas, par exemple, le cas où il avait prévu la fin et où le malade a guéri, n'est-ce pas? Ou le cas opposé où il comptait sur la guérison et le malade est parti. Et s'il a surtout le cas le plus intéressant, c'est le cas où la science médicale déclare qu'on est inguérissable et qu'on guérit. S'il a observé des cas comme ça, et s'il peut donner des exemples, n'est-ce pas? Naturellement, sans simplement décrire ce qu'il a vu. Je veux dire, qu'est-ce qui est arrivé au malade et comment il se fait qu'il a guéri? Ça, il ne peut pas savoir. Mais extérieurement, qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce qu'il croit à la possibilité d'une intervention d'un autre?
Oh oui, sûrement, oh oui. Au contraire, il cherche à attraper quelque chose.
Attraper ça, oui, c'est ça. Ça, c'est mon impression. Il y a deux choses, n'est-ce pas? Une, par exemple, que une maladie se déclenche ou un désordre se déclenche et il y a comme c'est pas une contagion, mais c'est une... Comment expliquer ça? Ce serait presque que comme une imitation, n'est-ce pas? Mais c'est pas tout à fait ça. C'est... Il y a... Un ensemble de cellules qui flanquent, qui, pour une raison quelconque, il y a d'innombrables raisons, pour une raison quelconque, subissent le désordre, obéissent au désordre. Eh bien, ce n'est pas... Il y a un point qui devient malade selon la vision, n'est-ce pas, ordinaire de la maladie. Mais cette intrusion du désordre se fait sentir partout. Elle a des répercussions partout. Partout où il y a un point qui est plus la plus faible ou plus... moins résistant à l'attaque. Ça se manifeste. Par exemple, prends quelqu'un, n'est-ce pas, qui a l'habitude d'avoir ou mal à la tête, ou mal aux dents, ou une toux, ou des douleurs névralgiques, ou n'importe, n'est-ce pas, un tas de petites choses comme ça. Ça va, ça vient, ça croît, ça diminue. Mais s'il y a une attaque de désordre quelque part, n'est-ce pas, sérieuse, toutes ces choses réapparaissent immédiatement. Ça, ce n'est pas, n'est-ce pas, c'est un fait que j'ai observé. Et le mouvement contraire est comme ça aussi. Si on arrive à porter à l'endroit attaqué la vraie vibration, la vibration d'ordre et d'harmonie, et qu'on arrête le désordre, toutes les autres choses se mettent en place. Comme automatiquement. Et ce n'est pas par une contagion, n'est-ce pas? Ce n'est pas, par exemple, que le sang apporte la maladie. Ce n'est pas ça. C'est presque comme, oui, c'est presque comme, hein. Le plus matériellement qu'on pourrait dire, c'est un esprit d'imitation. Mais la vérité, c'est que l'harmonie qui maintient tout est attaquée, elle a fléchi, et que alors tout se désorganise, chaque chose à sa manière et selon son habitude. Et ça, qui est pour les cellules du corps, c'est la même chose pour les événements extérieurs. Jusqu'aux événements mondiaux, c'est même remarquable au point de vue des tremblements de terre, des choses comme ça, des éruptions de volcans. Il semblerait que la terre tout entière soit comme le corps. C'est-à-dire que si un point fléchit et manifeste le désordre, tous les points sensibles subissent le même effet. Au point de vue humain, c'est dans une foule, c'est extraordinairement précis. La contagion d'une vibration, surtout les vibrations des autres, mais les autres aussi. Et ça, c'est une démonstration tout à fait concrète de l'unité. C'est très intéressant. C'est très intéressant. C'est une chose que j'ai observée au point de vue des cellules du corps, je crois, des centaines de fois. Et alors, n'est-ce pas, au lieu de le de cette impression mentale d'une chose qui s'ajoute à l'autre comme ça, ce qui rend le problème plus difficile, ce n'est pas du tout ça. C'est, si on touche au centre, tout le reste naturellement rentrera dans l'ordre, et c'est un fait. Si le centre du désordre est remis en ordre, tout s'en suit, tout naturellement, sans attention spéciale. Au point de vue des humains, au point de vue des révolutions, au point de vue des bagarres, au point de vue des révolutions, au point de vue des guerres, c'est extraordinaire d'exactitude, de correction. Une démonstration tout à fait concrète de l'unité. Et c'est par cette connaissance de l'unité qui a la clé. On se demande comment, par exemple, l'action d'un homme ou d'une pensée peut remettre les choses en ordre. C'est comme ça. Non pas qu'il faudrait qu'il pense à tous les endroits et que non, il faut toucher le sang et tout rentrer dans l'ordre. Automatiquement.